frère Jean-Baptiste Golfier, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France, surtout après la canonisation de Saint Charles de Foucault.
Absolument, mon cher Olivier. Donc, il y a évidemment une grâce particulière à cette émission qui suit juste la belle cérémonie de dimanche dernier à Rome. J'imagine que beaucoup des auditeurs l'ont suivi, surtout les fidèles de cette émission. Et donc, nous pouvons maintenant parler de Saint Charles de Foucault. Il est sur les autels. Nous avons la certitude, donc, qu'il est au ciel auprès de Dieu. C'était une quasi-certitude jusqu'ici, mais son culte qui n'était permis que localement. Du fait de la béatification est maintenant étendue à l'Église universelle, et vous savez qu'il sera fêté le 1er décembre et que nous pouvons l'invoquer vraiment comme un saint qui est dans la lumière de Dieu et qui fait des miracles. Vous connaissez tous le miracle qui a touché le Charles sans S, dont nous avions parlé pour la première émission le 16 septembre dernier et qui était place Saint-Pierre il y a quelques jours, le 15.
Et là, mon cher père, vous venez en plus avec un titre qui peut que séduire et toucher nos auditeurs, c'est comment aimer la Vierge Marie à l'école de Saint Charles de Foucault.
Absolument. Vous vous rappelez, chers amis, chers auditeurs et auditrices, que nous avions voulu des émissions un petit peu plus mariales pour honorer notre saint pendant le mois de Marie. Et donc, le 21 avril, juste avant le début de ce mois, nous avons essayé de voir pourquoi aimer la Vierge Marie à l'école de Charles. Et donc, les raisons théologiques qui l'avaient poussé à rentrer dans une intimité étonnante avec la Vierge Marie, et je crois absolument centrale dans sa spiritualité, et malheureusement trop peu travaillée par les théologiens à ma connaissance. Mais je crois que toute la spiritualité de Foucault, centrée sur le Christ, l'est par les mains de Marie, et je pense vous en avoir donné suffisamment de textes dans la dernière émission, qui donc peut être écoutée en podcast. Et je vous rappelle qu'il avait surtout tiré toute sa mariologie, à ma connaissance, de la méditation de ces deux paroles de Jésus en croix. « Femme, voici votre fils, fils, voici votre mère ». Et nous avions vu que de cet ordre, il avait tiré un point essentiel, je cite Charles de Foucault, d'obéissance à Jésus et d'imitation de Jésus, que de vivre comme des fils de Marie. Et donc c'est vraiment logique, réaliste et indiscutable. Charles de Foucault a tout compris à partir de ces deux paroles du Seigneur, et comme Foucault n'est pas un rêveur, mais un homme d'action, c'est toute son énergie, toute son intelligence et tout son amour qu'il mettra concrètement en pratique au service de Marie pour mieux être au service de Jésus. Parce que je pense que tout le monde qui m'écoute en est d'accord, si on écoutait ces belles émissions sans avoir une envie très concrète de dilater notre amour pour la Vierge Marie, ça ne servirait pas à grand-chose et vous pourriez tout de suite éteindre votre radio et vous endormir. Mais je vais essayer de vous réveiller au contraire et de dilater encore plus votre amour du chapelet, votre amour des vertus de la Vierge, votre souhait de l'imiter. Parce que, qu'est-ce qu'il en est pour nous ? Nous avons lu bien des fois cet évangile, nous avons peut-être médité les beaux textes que Foucault nous proposait la dernière fois, et pourquoi produit-il en nous moins d'effet que dans le cœur de Charles assez souvent ? Ce n'est pas parce que nous sommes enfoncés dans des ténèbres de péché plus que lui, parce que j'imagine que la plupart des auditeurs et auditrices n'ont pas vécu dans la débauche sexuelle, l'ambition, loin de Dieu, comme Charles de Foucault pendant des années, mais c'est souvent parce que nous nous bâtissons une petite vie tiède, confortable, médiocre. En un mot, c'est parce que nous avons peur d'aimer, peur de nous donner, peur de nous engager, et alors nous sommes un peu des poltrons, nous restons dans la mollesse, désabusés, comme Charles avec sa pauvre maîtresse dont nous avions parlé, rappelez-vous. Et au lieu de nous donner de tout cœur, comme Charles, à la Vierge Marie, et de trouver alors la joie et la paix qu'espère notre âme. Alors comment faire ? Eh bien, remettons-nous comme un enfant entre les mains de Marie, comme Charles le dit dans un beau texte de 1904. « Mère du perpétuel secours, je me remets à jamais entre vos mains, pour que dans la vie et dans la mort, vous fassiez toujours ce que vous voulez de moi, me portant dans cette vie et dans l'autre, entre vos bras, comme vous avez porté Jésus enfant, ô ma mère bien-aimée. » Imaginez une Vierge à l'enfant, comme tant de nos statues ou de nos peintures la représentent. L'enfant Jésus est parfois au milieu de ses genoux, mais souvent il est sur un seul de ses genoux. L'autre genou étant laissé libre pour nous accueillir. Et sur certaines statues, c'est particulièrement frappant. Et les historiens de l'art le commentent comme étant vraiment un genou réservé par le sculpteur ou le peintre pour tous les chrétiens qui voudront être vraiment entre les bras de Marie. Il y a souvent même un bras qui retient un chrétien invisible. Je pense à Notre-Dame du Port en Auvergne, je pense à Notre-Dame du Puy également du Puy-en-Velay. Et donc, sachons nous remettre comme Foucault en 1904, nous sommes en 2022, et renforcés par la grâce de sa canonisation, là, il y a une grâce particulière à méditer sur ce saint juste après son élévation sur les autels pour l'imiter. Et si nos péchés nous retiennent, si on a un petit peu honte, si on se sent plus propre à imiter le Foucault avant la conversion qu'après, eh bien allons faire comme lui. Allons nous réconcilier avec le Seigneur au confessionnal, où la miséricorde du bon Dieu nous attend. Nous avons tous et toutes, a priori, à avouer des fautes beaucoup moins grandes que celles qui noircissaient le cœur de Charles. Alors ayons confiance, prenons courage, nous partons de moins loin que lui, alors la route sera plus courte. Mais pour être rapide, bien droite et très sûre, pour reprendre des épithètes chères à Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, nous l'avions dit la dernière fois, cette route devrait être la même que la sienne, c'est-à-dire mariale. Le père de Foucault s'habilla de blanc en l'honneur de Notre-Dame, et ça, c'est un détail qui est peu connu. Tout le monde le voit avec sa gandoura frappée d'un Sacré-Cœur, mais sa gandoura, elle est blanche, il aurait pu prendre une autre couleur, et au désert, souvent, les couleurs sont foncées. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que ça attire plus la lumière que le blanc, mais il avait vraiment choisi cette couleur, peut-être discrètement pour avoir un petit peu moins chaud, mais fondamentalement en l'honneur de la blancheur de l'Immaculée, de la Vierge Marie. Rappelez-vous qu'il est né quand même l'année des apparitions de Lourdes, et donc évidemment en 1904, 1907, comme date la plupart des textes que je cite là sur la Vierge Marie, eh bien, cette apparition reste très vive dans les cœurs, même si la Vierge est apparue depuis à Pontmain avec un manteau bleu. L'apparition de Lourdes, évidemment, a une place plus importante dans le cœur de tous les Français et peut-être encore plus dans le cœur de ce Strasbourgeois né la même année. Il voulait réciter également le rosaire, pas le chapelet seulement, hein, donc les trois mystères joyeux, douloureux et glorieux, les mystères lumineux n'existaient pas encore, matin et soir. Donc ça veut dire six chapelets par jour. Et donc je vous propose évidemment de dire au moins un chapelet par jour. Vous savez combien la Vierge de Fatima, que nous avons honorée le 13 mai dernier, nous invite six fois à dire le chapelet tous les jours. Vous allez me dire, ouais, mais elle le dit aux enfants, bah, relisez bien les textes, elle invite vraiment tout le monde, au travers de Lucie, Jacinthe et François, à dire le chapelet quotidiennement. Et vous savez combien le Saint-Père, le pape François, nous a invités à le faire pendant ce mois de mai, en particulier en priant pour la paix. Évidemment, par rapport à la guerre en Ukraine, qui nous fait tellement peur, parce qu'elle est quand même proche et avec une violence dramatique. Mais pour la paix dans le monde, puisqu'il n'y a pas beaucoup de continents où c'est la paix totale, évidemment. Et disons au moins plusieurs dizaines de « Je vous salue Marie », c'est tellement facile de les semer autour de nous, dans des files d'attente, dans des embouteillages, que sais-je. Hein, semer des « Je vous salue Marie » et nous récolterons des âmes, comme le disait le premier aumônier militaire français, si ma mémoire est bonne, c'était le père Bélanger, et qui avait cette formule à cœur, semez des Ave Maria et vous récolterez des âmes. Donc le blanc, le rosaire, mais surtout offrons-nous à Marie et aimons ces fêtes liturgiques. Charles aimait beaucoup les fêtes mariales, et en particulier une fête très particulière. Alors, comme nous sommes à la radio, je ne peux pas vous la montrer, mais il avait un soin particulier pour la fête de la Visitation, et c'est actuellement mon fond d'écran, puisque vous savez peut-être que je parle depuis l'abbaye de la Grâce dans l'Aude, entre Narbonne et Carcassonne, depuis un ordinateur et le réseau Skype. Et mon fond d'écran est justement la très belle peinture de la Visitation que Charles de Foucault a peint, et peut-être que Google pourra vous la trouver. Donc, je vous invite à la méditer, elle est juste superbe, et on distingue dans la finesse du trait la douceur du visage de la Vierge Marie, la pudeur de son geste se posant sur la poitrine de Sainte Élisabeth. Donc, elles se touchent la poitrine toutes les deux, enceintes toutes les deux, l'une du précurseur, l'autre du Messie. Et voilà ce que, en méditant probablement cette scène de l'Évangile, et peut-être en peignant le dessin que vous arrivez peut-être à retrouver, Foucault écrivait le 2 juillet 1878, à l'époque la fête de la Visitation, comme c'est toujours le cas dans le calendrier en forme extraordinaire, était fêtée le 2 juillet. Et donc voilà ce qu'il dit en 1878. Donc il n'est pas encore au désert, si vous avez bien retenu toutes les dernières émissions et la chronologie de sa vie. Cette bénie fête de la Visitation est encore la fête de nous tous privilégiés, favorisés, bienheureux qui communions. C'est la fête de Marie portant Jésus en elle, comme nous, après la Sainte Communion. Et donc, je pense qu'il faut vraiment méditer que nous avons la grâce de Sainte Élisabeth en voyant les autres personnes qui viennent de communier et qui sont comme autant de petites saintes vierges portant Jésus en elles, comme la Vierge à la Visitation, et puis que nous sommes comme la Vierge de la Visitation nous-mêmes lorsque nous communions. Hein, ça peut être très édifiant parfois de voir des gens, quand ils sont recueillis évidemment, communier, et Dieu sait que ce sera parfois un papa, une maman, un prêtre, un petit enfant, une vieille mémé, qui seront extrêmement édifiantes dans leur recueillement. Et si jamais on voit des gens qui communient sans tout le respect convenable envers la présence réelle du Seigneur, eh bien, essayons de compenser par notre ferveur cette communion. Je vous avoue que dans la salle d'où je vous parle, je recevais il y a quelques jours une petite jeune fille qui a été victime de viol dans un rituel satanique avec profanation de l'Eucharistie. Et outre le témoignage bouleversant qu'elle offrait, ça a beaucoup stimulé mon amour de l'Eucharistie pour réparer dans nos communions, moi-même dans la célébration de la messe et la communion, eh bien un immense amour de Jésus-Hostie, aujourd'hui où hélas l'Eucharistie est parfois volée dans des tabernacles ou dans des communions dans la main où on dissimule l'Hostie et pour des profanations et des rituels sataniques. Et donc vraiment que notre ferveur, à l'image de Charles de Foucault, contemplant la Visitation, soit renouvelée par la beauté de la Visitation, mais aussi par les horreurs de ces crimes commis régulièrement. Je reprends le petit texte de Charles de Foucault sur la Visitation. Cette fête est aussi la fête des voyageurs. Apprenez-nous, Homère, à voyager comme vous voyagiez dans cet oubli absolu des choses matérielles. Les regards de l'âme sans cesse fixés sur le seul Jésus que vous portez dans votre sein, le contemplant, l'adorant, le considérant sans cesse, passant au milieu des créatures comme en rêve. Alors, est-ce que la Vierge était complètement en rêve, dans un oubli absolu des choses matérielles? Personnellement, je ne pense pas totalement qu'elle était sur un petit nuage rose, oubliant les moindres détails pratiques, mais on comprend ce que veut dire Foucault. C'est-à-dire que toutes les choses pratiques étaient considérées comme secondaires. Donc probablement, enfin, de Bethléem à Ain Karim, ce voyage étant long, hein, pratiquement 70 km, et en montagne, une jeune fille enceinte qui a 15-16 ans ne va pas s'aventurer toute seule. Donc peut-être est-elle accompagnée, peut-être même par Saint Joseph, au moins pour les voyages. Et dans tous les cas, il est sûr qu'elle avait prévu de quoi manger, de quoi dormir, de quoi peut-être se protéger d'un animal sauvage ou d'un malotru qui aurait essayé de lui voler quelque chose. Mais en tout cas, qu'elle n'était pas totalement oublieuse des choses matérielles, mais qu'elle mettait, ça c'est certain, les choses matérielles à leur place. Ce que trop souvent, hélas, nous ne faisons pas. Et ça me fait penser à un très beau texte de Saint François de Sales, qui disait que lorsque nous avons vraiment Jésus en nous, dans la grâce sanctifiante, et a fortiori juste après une communion eucharistique, on est un petit peu comme si on portait un vase de grand prix qui serait plein à ras-bord. Imaginez, vous avez un parfum, pas le Chanel numéro 5 ou le dernier parfum à la mode super cher qu'on vient de vous offrir, et un grand flacon, eh ben vous essayez de ne pas en renverser une goutte. Et si on vous demande de courir avec ce flacon, vous allez faire extrêmement attention à ne pas en renverser une goutte. Ben, Saint François de Sales disait que c'était la belle image du chrétien qui, dans sa vie intérieure, doit faire attention à s'occuper de toutes les choses matérielles, de son métier, des relations humaines, de toutes les contraintes liées à notre vie sur cette terre, mais sans oublier ce parfum de la vie divine qui est en nous, a fortiori lorsque nous venons de communier. Et donc, puissions-nous, après nos communions eucharistiques, avoir le même recueillement. Et puis, il n'y a pas que la fête de la Visitation qui lui était chère. Voilà ce qu'il écrit à propos du 8 décembre. Donc, c'est dans ses considérations sur les fêtes de l'année. Je vous ai dit que beaucoup des textes de Foucault, et ils sont extrêmement nombreux, on l'avait vu, sont des méditations qu'il rédigeait pendant ses oraisons, ou ses lectio divina, lectiones divinae pour les latinistes distingués qu'il y a peut-être, hein, m'écoutez, et donc en méditant une fête de la Visitation ou de l'Immaculée Conception, il relisait les textes liturgiques du jour. Et rédigeait souvent de belles considérations. Et donc voilà ce qu'il écrit dans la considération sur la fête du 8 décembre. L'Immaculée Conception de notre Mère bien-aimée, voilà un jour de fête pour la pieuse maison de Nazareth. Une fête pour Joseph, une fête de reconnaissance pour Marie. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint Joseph, obtenez-nous un cœur de vrai enfant de Marie, comme de vrais petits frères de Jésus. C'est très beau. Pourquoi c'est très beau sous la plume de Foucault? Parce que Petit frère de Jésus, c'est exactement le titre qu'il va vouloir pour sa congrégation qui va ne pas cesser d'avorter, tellement la règle qu'il s'imposait était exigeante et décourageante pour tous ses disciples. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les petits frères de Jésus sont justement une des congrégations qui suit son message et qui évidemment était à la fête dimanche dernier à Saint-Pierre de Rome. Ma mère, très sainte Vierge. Vous savez que je vous aime plus que tout. Après Jésus, et ça c'est intéressant, on n'est pas dans la mariolatrie, je vous aime plus que tout après Jésus. Faites-moi passer cette fête, donc de l'Immaculée Conception, et tous les jours de ma vie, comme votre cœur le veut. Comme votre cœur le veut. Alors, Saint Maximilien Kolb dira que la consécration mariale, et nous avons vu combien Foucault vivait cette consécration, on va le revoir dans un instant, permettait à la Vierge d'aimer Dieu avec notre cœur. Autrement dit, à la Vierge de venir dans notre cœur pour se servir de lui, pour mieux aimer le Seigneur. Ma mère, me voici pendant ce temps si saint de l'Avent, l'Immaculée Conception tous les ans tombe dans cette période qui nous prépare à Noël, me voici pendant ce temps si saint de l'Avent au pied de Jésus, caché dans votre sein, entre vous et Joseph. À l'Avent est par excellence le mystère de la vie cachée du Seigneur. Plus encore caché qu'à Nazareth, et Dieu sait que Foucault a été fasciné, nous l'avons vu, par cette vingtaine, trentaine d'années où Jésus n'a pas fait de miracle exceptionnel, n'a pas fait de discours remarquables et remarqués, et dont les évangélistes ne nous disent absolument rien, mais cette vie cachée sauve le monde, bien sûr. Et nous savons combien, pendant ces années d'érémitisme à Nazareth, Foucault a médité là-dessus. Et donc, la vie la plus cachée du Christ, c'est évidemment la vie de la grossesse depuis l'Annonciation jusqu'à Noël, qui est rappelée chaque année pendant l'Avent, et en particulier dans cette fête de l'Immaculée Conception, même si, évidemment, quand elle est conçue immaculée, la Vierge n'est pas encore enceinte du Seigneur. Mais comme ça tombe pendant le temps de l'Avent, eh bien, c'est l'occasion de rentrer vraiment dans la Vierge. De rentrer en elle comme l'enfant Jésus était physiquement en elle pendant cette neuvaine de mois, depuis le 25 mars jusqu'au 25 décembre. Entre vous et Joseph, dans cette maison bénie de Nazareth, j'adore avec vous celui qui veut bien se faire votre fils. J'adore avec vous, donc j'adore avec votre cœur, ô Marie, celui qui veut bien se faire votre fils, donc le fils de Dieu. Je me tiens à ses pieds dans le silence, l'admiration, la gratitude, l'adoration, et en pensant à lui et le contemplant, je vous vois et je vous aime. Il vous aime tant, lui qui vous a béni entre toutes les femmes, jour bienheureux pour le monde, signal de sa rédemption. Il vous aime tant, lui qui vous a béni entre toutes les femmes, Jour bienheureux pour vous, ma mère, commencement de votre vie en Dieu, commencement de gloire de sa mère bien-aimée. Mon Dieu, faites passer à tous vos enfants ce jour béni comme vous le voulez. Amen, nous dit Charles de Foucault. Donc, faisons vraiment comme lui, aimons cette fête et comprenons qu'elle est vraiment bénie entre toutes les femmes, en particulier dans ce privilège extraordinaire de l'Immaculée Conception qui la prépare à la maternité divine. Et comme ces mots reprennent un passage du Je vous salue Marie, et je vous propose une autre méditation de Charles de Foucault sur le quatrième dimanche de l'Avent. Donc, nous sommes toujours dans cette période où la Vierge est tellement honorée pour que nous vivions vraiment ce Saint-Ange qui nous prépare à la naissance du Seigneur, avec le cœur de Marie, avec le regard de Marie, avec la contemplation de la Vierge Marie. Encore 6 jours, votre dernier sabbat de Nazareth, votre dernier sabbat de Dieu caché, hein, le quatrième dimanche de l'Avent et juste avant Noël, bien sûr. Votre dernière semaine de Dieu caché est écoulée, ô Marie, ô Joseph. La terre, vous êtes déjà un ciel. Vous qui avez Jésus au milieu de vous et qui l'adorez si profondément, qui sentez l'infini bonheur de l'avoir avec vous, qui vous perdez avec tant d'amour et de délices dans son adoration. Mais que sera-ce quand ce Jésus, vous le verrez, vous l'entendrez, quand il vous parlera, vous caressera, vous embrassera, vous baisera comme sa mère et son père, quand vous aurez à le soigner, à l'entretenir, à lui donner tout ce qu'il lui faut. Hein, donc vous voyez que Charles de Foucault parle vraiment comme s'il était à côté d'eux, à Saint-Joseph et à la Vierge Marie. Et moi, Jésus, n'est-il pas en moi comme en Marie? Quand je le reçois dans la Sainte Communion, à nouveau, hein, il fait un pont entre sa dévotion mariale et sa dévotion eucharistique, comme nous venons de l'écouter dans sa méditation sur la Visitation. Et moi, Jésus, n'est-il pas en moi comme mon mari, quand je le reçois dans la Sainte Communion? N'est-il pas avec moi quand je suis au pied du tabernacle? Ne m'embrasse-t-il pas quand je communie? Ne me caresse-t-il pas dans la bénédiction du Saint-Sacrement? C'est beau, ça, de, je ne sais pas comment vous le vivez, chers auditeurs et auditrices, mais de voir l'adoration et la bénédiction du Saint-Sacrement comme une caresse de Jésus. N'ai-je pas à l'entretenir, à le soigner quand j'arrange et quand je tiens propre son sanctuaire? Hein, je m'adresse à toutes les sacristines et toutes les bénévoles qui font le balayage des églises, qui lavent les nappes d'autel et ou qui préparent les fleurs. N'ai-je pas à l'entretenir, à le soigner? Donc c'est vraiment Jésus que nous soignons comme Jésus, pardon, comme Marie et Joseph ont pu le faire à la crèche et dans les premiers mois de sa vie, en le lavant, en l'habillant, en le soignant. Hein, quand j'arrange et quand je tiens propre son sanctuaire, quand je sers le prêtre, quand je l'aide à se vêtir, et là ça s'adresse plus aux enfants de cœur, n'ai-je pas à le nourrir quand je travaille pour ses filles ou que je le fais quelque bien aux pauvres? Puisque c'est évidemment lorsque nous aidons un malheureux, hein, ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, eh bien nous reproduisons un petit peu les gestes de Marie. Et ça c'est très intéressant. Vous voyez, parce que du coup, il fait allusion évidemment à ce beau texte de Matthieu 25, 40, ce que vous aurez fait au plus petit entre les miens, vous le faites pour moi, you do it to me, comme disait Mère Teresa sur les 5 doigts de sa main, you do it to me, ça fait 5 mots, vous le faites pour moi, mais il pense aussi à la Vierge Marie. Et donc il se met à la place de la Vierge Marie qui prend soin de Jésus. Et donc ça veut bien dire que toute sa vie tournée vers le Christ, elle est vécue en Marie et par Marie. 28 décembre, voilà comment il médite aussi le texte, juste après Noël. Donc là, on était juste avant, et maintenant, on est juste après. Sainte Vierge, Saint Joseph, mettez-moi avec vous au pied de la crèche. Vous avez tous deux 2 occupations. L'une qui ne cesse pas, la contemplation, l'adoration. L'autre qui dure un temps plus ou moins long, le travail manuel, matériel. Pour Marie, le soin de son fils et divers soins de ménage. Pour Joseph, la plus grande partie des soins de ménage, les courses au dehors. Et puis, il faut chercher du travail et louer ses bras pour subvenir à l'existence de la Sainte Famille. Et tout cela dans la pauvreté, l'abjection, le froid, la pénitence. Donc, il médite ce que devait être le partage des tâches Et donc c'est très moderne, hein, quand on parle des soins ménagers pour les hommes, on a l'impression qu'on est très très moderne et que c'est post-mai 68, mais vous voyez Charles de Foucault qui l'écrit au début du XXe siècle. Et c'est évident qu'avec la délicatesse d'un père nourricier pour son épouse qui vient juste d'accoucher et qui a besoin de prendre du repos, même si ce n'est pas un accouchement douloureux, mais plus un enfantement, puisque l'accouchement de Marie a été virginal. Eh bien, elle devait être quand même un petit peu émue et fatiguée de la métamorphose de son corps, même si elle n'avait pas souffert comme une autre maman, elle devait vivre quelques fatigues que Joseph prenait en soin. Et donc, on imagine Foucault qui admire toute cette scène avec vraiment une délicatesse touchante. Revenons à la Visitation. Tout à l'heure, nous avions un texte de 1878, et là, on va faire un saut 20 ans plus tard, de 1898. Donc, il est à Ephrem, et Charles fait 8 jours de retraite durant le carême. Et donc, il n'est pas à méditer le jour J d'un 2 juillet, fête à l'époque de la Visitation, que nous allons avoir bientôt, bien sûr, à la fin de ce mois de mai, mais il la médite donc pendant le carême. Et voilà ce qu'il dit. À peine incarné, j'avais demandé à ma mère de me porter à la maison où va naître Jean. Autrement dit, il fait parler Jésus, afin de le sanctifier avant sa naissance. Il s'agit bien sûr de Jean-Baptiste, donc le saint patron de celui qui vous parle. Je me suis donné au monde pour son salut dans l'incarnation. Avant même de naître, je travaille à cette œuvre, la sanctification des âmes, et je pousse ma mère à y travailler avec moi. Donc c'est encore une fois, pour les auditeurs, pour que ce soit bien clair, c'est Charles Foucault qui fait parler Jésus, admirant sa mère, la Vierge Marie, dans la scène de la Visitation. Ce n'est pas elle seule que je pousse à travailler, à sanctifier les autres dès qu'elle me possède. C'est toutes les autres âmes à qui je me donne. Un jour, je dirai aux apôtres, prêchez, et je leur donnerai leur mission et je leur tracerai leurs règles. Ici, je dis aux autres âmes, à toutes celles qui me possèdent et vivent cachées, qui me possèdent mais n'ont reçu mission, pardon, qui me possèdent mais n'ont pas reçu mission pour prêcher, je leur dis de sanctifier les âmes en me portant parmi elles en silence. Aux âmes de silence, de vie cachée, vivant loin du monde, dans la solitude, je dis, toutes, toutes, travaillez à la sanctification du monde, travaillez-y comme ma mère, allez établir vos pieuses retraites au milieu de ceux qui m'ignorent. Portez-moi parmi eux en y établissant un autel, un tabernacle, et portant l'évangile, non en prêchant l'évangile de bouche, mais en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant, mais en le vivant. Sanctifiez le monde, apportez-moi au monde, âme pieuse, âme cachée et silencieuse, comme Marie m'a porté à Jean. Qu'est-ce qui vous frappe, chers amis, si vous connaissez bien la vie de Charles de Foucault, si vous avez au moins écouté les dernières émissions que nous avons consacrées à notre saint? Et bien qu'il y a là le programme qui sera le sien au désert, qui est déjà un petit peu le sien lorsqu'il était ermite à Nazareth, mais surtout son programme à Béni Abbès, à Tamanrasset, au Sahara, de vivre dans le silence, dans la prière, comme la Vierge Marie l'a fait, sans prêcher comme les apôtres, sans prêcher comme son divin Fils, en étant simplement un modèle de l'Évangile vécu. Avant et pour inspirer les apôtres qui allaient être les modèles, nos modèles de l'évangile prêché à la suite du Christ. Et c'est donc pour nous, une fois de plus, la preuve que toute la spiritualité de Charles de Foucault est centrée sur le mystère de la Vierge Marie comme le grand modèle pour mieux aimer Jésus et mieux le faire connaître. Donc je pense que j'ai convaincu peut-être ceux qui étaient un peu récalcitrants sur cette centralité de la mariologie dans la pensée de Charles de Foucault. Mais surtout, parce que déjà c'est pas mal, le blanc, Là, encore une fois, on cherche dans cette émission à voir comment aimer la Vierge Marie. Donc l'habit blanc et celui qui vous parle porte dans un ordre qui est ainsi habillé depuis plus de 1000 ans un habit blanc. Vous avez à Toulon, pour ceux qui m'écoutent depuis cette bonne ville, les missionnaires de la Miséricorde qui portent aussi ce bel habit blanc en l'honneur de Charles de Foucault et donc indirectement en l'honneur de la Vierge Marie. Donc l'habit blanc, le rosaire, les fêtes liturgiques, mais surtout offrons-nous à Marie aussi souvent que nous le pouvons, comme un enfant pour aimer sa maman. Charles, en 1903, fait de ce point un vœu. C'est hyper impressionnant. Et il a fait déjà un vœu de pauvreté, de chastité, d'obéissance, adapté à son état de solitaire dans le désert. Donc son vœu d'obéissance, évidemment, il est obligé de prendre plein d'initiatives puisqu'il a des réponses assez lettres que tous les 3 ou 6 mois. Mais il va faire un vœu, du coup, donc un vœu, ça oblige sous peine de péché. Et sous peine d'un péché très particulier qu'on appelle le sacrilège. Donc c'est pas une petite promesse en l'air. Donc il va faire un vœu en 1903, je le cite. Je me propose d'entretenir en moi la volonté de donner à Marie toutes mes actions, toutes mes prières, toutes mes souffrances, toutes mes œuvres satisfactoires, toute ma vie spirituelle, afin qu'elle offre et donne tout à Jésus. C'est hyper impressionnant. Vous le trouvez, donc c'est le vœu qu'il va faire à Noël 1903. Et lorsque nous avançons vers la table de communion, pensons, comme Charles le faisait, à Notre-Dame de la Visitation ou à Notre-Dame de l'Avent, nous venons de le méditer. Et voici avec quel émerveillement il contemple la Mère de Dieu en cette scène évangélique qui le ravissait. Là, je vous cite à nouveau, parce que je crois que c'est tellement important, une belle méditation sur le 2 juillet 1898. Marie portait Jésus en elle, comme nous, après la Sainte Communion. Ô Mère bien-aimée, vous portiez Jésus si bien, apprenez-nous à le porter quand nous venons de le recevoir et toujours quand nous venons de communier. Il est en nous comme il était en vous par son corps. Apprenez-nous à le porter avec votre amour, votre recueillement, votre contemplation, votre adoration continuelle. Hein, c'est tellement beau. Et donc puissions-nous vraiment communier comme Marie, en Marie. Et savez-vous ce qui va se passer si nous faisons ça? Savez-vous ce qui arrivera si nous nous tournons vers Marie? Eh bien, Notre-Dame nous prendra par la main tout doucement et nous fera passer, comme Charles de Foucault, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la terre au ciel. Et alors nous comprendrons que sa grande prière d'abandon, qui a fait un petit peu le fil rouge de toutes nos méditations, est une prière étonnamment mariale. Et je vais vous la lire avant, dans sa version complète, avant que nous l'entendions chanter dans une version populaire un petit peu réduite. Nous avions utilisé cette version complète dans une des premières émissions. Et donc, vous allez reconnaître des mots du chant que nous allons écouter dans un instant, mais aussi des paroles qui ont été un petit peu oubliées. Et je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à les écouter, ces paroles de cette prière d'abandon, qui est la prière la plus célèbre de Foucault, dans une perspective mariale. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Nous avons médité une dernière fois cette belle prière de Charles de Foucault avec sa tonalité mariale. Nous avons compris combien Foucault voulait vivre tourné vers le Christ, dans Marie, par Marie, et toujours mieux vivre cet amour de Jésus, en particulier dans l'Eucharistie. Vous savez combien le Christ eucharistique a été un pôle majeur attirant Foucault comme un aimant. Et c'est pour ça que nous terminerons nos émissions la prochaine fois sur la spiritualité eucharistique de Charles de Foucault. Lorsqu'il est mort en 1916, il était en adoration devant le Saint-Sacrement lorsqu'il a été fait prisonnier. Et l'officier français qui retrouvera le lieu du drame retrouvera la lunule jetée à terre, mais l'hostie, heureusement, encore intacte, et il communiera avec un infini respect. Et je vous propose justement, pour faire la transition entre cette dernière émission mariale et la prochaine émission eucharistique qui terminera notre cycle de 10 émissions sur Charles de Foucault, ce sera le 16 juin prochain, à la même heure, de vivre en particulier en Marie nos actions de grâce. Vous savez que certains saints ont été absolument terribles pour encourager les fidèles à faire leur action de grâce, autrement dit, à ne pas partir aussitôt la fin de la messe ou à être distrait aussitôt la Sainte Communion une fois qu'ils sont revenus à leur place. L'un d'eux avait même envoyé des enfants de chœur pour escorter une dame, comme on escorterait le Saint-Sacrement dans une procession, pour lui montrer qu'elle portait Jésus en elle et qu'il fallait qu'elle soit beaucoup plus recueillie qu'elle ne l'était. Donc, puissions-nous passer quelques secondes, quelques minutes de plus que nous le faisons pour adorer vraiment cette présence réelle en nous. Le Seigneur Eucharistique est réellement présent physiquement au moins une dizaine de minutes avant d'être totalement dissous par le processus de la digestion. Et donc, il est présent sous ces espèces eucharistiques, comme il est présent au tabernacle pendant au moins une dizaine de minutes après la Sainte Communion. Alors vous allez me dire, ça couvre souvent la fin de la messe, mais tant pis, il faut prolonger ce temps qui va faire passer cette présence eucharistique dans une présence d'immensité et une présence d'inhabitation du Seigneur en nous. Et la présence eucharistique est là pour dilater cette présence réelle d'inhabitation de toute la Trinité dans notre âme, qui fera notre émerveillement au ciel. Donc vivons cela comme Charles de Foucault, en Marie et par Marie, et alors nos actions de grâce seront belles et Jésus encore plus honoré.
Chers auditeurs, c'était notre émission Charles de Foucault avec le Père Jean-Baptiste Golfier. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.